Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Politique culturelle ce soir, un petit mois avant les élections municipales, on va donc parler de politique culturelle décentralisée, car le financement de la culture en France, c'est de moins en moins l'État et de plus en plus les collectivités locales. Et c'est justement de ce rôle culturel des villes et des régions que nous parlons ce soir dans Soft Power, alors que ces politiques locales se transforment, qu'elles ont de nouvelles priorités politiques, économiques, sociales ou même touristiques. Avec nous en studio pour en débattre, Michel Guérin, journaliste au Monde, bonsoir.
Bonsoir.
Claire Baumelard, journaliste au Figaro, bonsoir Claire.
Bonsoir.
Et puis Sarah Hugounenc, journaliste dans plusieurs supports, notamment parmi d'autres au quotidien de l'art. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Actualité ce soir également, nous reviendrons sur la question, les questions nombreuses qui se posent autour de l'affaire Benjamin Griveaux, en particulier le rôle de cet artiste russe, qui est-il? Et puis on reviendra également sur la question des, le rôle, la responsabilité des réseaux sociaux dans cette affaire. Et puis Zoé Sfez, vous nous parlerez aussi des victoires de la musique
et des Césars.
Des Césars.
Exactement, les crises, on va dire, de sens et de gouvernance de ces deux grandes institutions qui visent à primer des artistes en France qui sont à la fois, traversent on va dire une petite crise de la quarantaine toutes les deux.
Et puis un petit coup de gueule s'agissant du pass Navigo et de son remboursement. C'est un peu parisien, mais ça concerne quand même des millions de Français.
Bah, c'est la transition vers nos questions territoriales. On parle ici beaucoup de politique culturelle, de culture, mais aussi de numérique. Et oui, petit coup de gueule sur la manière dont la RATP, d'une certaine manière, fait fi de l'électronisme. Ce problème dont on parle souvent ici dans Soft Power et qui touche près de 20% des Franciliens. Probablement 20% des 4 millions de Franciliens qui pourraient bénéficier de ce dédommagement du pass Navigo pour le mois de décembre.
Du fait des grèves sur la question des retraites. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Ce soir, l'émission est réalisée par Véronique Villa avec en régie Ludovic Auger. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata. Car vous pouvez suivre Soft Power sur Twitter, au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. On commence et on revient sur l'affaire Benjamin Griveaux. Ça a été traité très longuement dans les journaux d'actualité, dans les émissions aussi, y compris en direct hier et aujourd'hui sur cette chaîne. Contentons-nous peut-être dans Soft Power de nous intéresser à deux aspects de cette affaire politique. La politique n'est pas le cœur de Soft Power, mais deux aspects concernent cette émission. D'abord, la question des réseaux sociaux, on y revient dans un instant, mais juste avant, on pourrait évoquer Piotr Pavlensky, cet artiste donc de 36 ans, russe, né en 1984 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, qui a commencé à se faire connaître en Russie par des actions souvent spectaculaires, proches au fond de l'atmosphère un peu où des Pussy Riots, d'ailleurs qu'il avait défendu. Il a fait des protestations nombreuses qui lui ont valu quelques arrestations avant d'être exilé et d'obtenir l'asile politique en France. Michel Guérin, cet artiste, vous en pensez quoi?
C'est un artiste, on a beaucoup entendu parler lui en fait en France au moment de son action à la Banque de France, quand il a mis le feu à la Banque de France à Paris. Il a une année de prison. Il y a eu un mouvement pour le défendre. Sur le côté, un an de prison pour un début d'incendie, c'est quand même cher payé. Et donc, il y avait eu pas mal de bruit à ce moment-là. Mais pas non plus énormément de gens pour le défendre dans les milieux culturels, ce qui m'avait frappé. Sous-entendu, j'ai l'impression que l'artiste était jugé incontrôlable et donc difficilement défendable pour ses actions.
Est-ce qu'on peut dire quand même ce qu'il avait fait? fait en Russie quand même. Ça, vous allez en parler, Michel.
Oui, non, mais allez, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en France, on l'avait très peu entendu parler à l'époque de ces. Pour moi, c'est plus des intentions au départ. Ce qui est étonnant, ce qui me surprend chez lui, c'est l'évolution. C'est-à-dire, c'était quelqu'un. Moi, je mets ça plutôt. J'inscris dans les actionnistes viennois. C'est-à-dire qu'il faisait des actions sur son corps, puisqu'il martyrisait son corps comme une espèce de symbolique pour dire un petit peu le régime russe, qui était un régime très difficile, fermé, autoritaire, voire dictatorial. Et puis, donc, c'était plutôt des actions sur lui-même. Et là, ce qui m'étonne un petit peu dans cette histoire avec Benjamin Griveaux, c'est qu'il fait une intervention où lui n'est absolument pas présent, mais qui concerne une tierce personne. Et c'est là, je le trouve...
Qui serait sa compagne, d'ailleurs.
Peut-être, je ne sais pas, mais ça, ça m'intéresse peu. Mais en tout cas, à l'arrivée, c'est là où je trouve totalement indéfendable. C'est que, autant quand il se met en jeu lui-même, depuis des années, que ce soit en Russie ou en France, je peux écouter et entendre ça. Là, je ne vois pas. J'ai l'impression qu'il c'est juste un espèce il est juste un intermédiaire, quoi, comme une boîte aux lettres, et qui vient mettre en cause un responsable politique français, et donc, indirectement, moi, je trouve la démocratie en France.
Claire Baumelard.
Oui, il n'a pas été tellement défendu par les milieux culturels parce qu'en fait, ça n'est pas vraiment un artiste, c'est plus un activiste.
Et il fait des happenings, disons.
Il fait des happenings.
C'est aussi de l'art parfois, les happenings, mais bon.
Je suis d'accord avec vous, mais brûler la Banque de France, effectivement, c'était pour dénoncer le grand capitalisme.
Enfin, elle n'avait pas brûlé, mais bon, c'était un petit
c'était
feu.
C'était pour dénoncer le capitalisme. Cette fois-ci, il dénonce l'hypocrisie des politiques. C'est peut-être pas tout à fait perçu comme un geste artistique. D'ailleurs, on verra après qu'il est plus dans les questions de chantage aujourd'hui qu'autre chose.
Peut-être on peut le nommer, même si personne, tout le monde a du mal à le dire, ce qu'il avait fait en Russie. Donc en Russie, les premières nouvelles qu'on avait eues de ce jeune homme, c'était il y a 4-5 ans, 2014, dans mon souvenir. Il avait fait deux actions à peu près en même moment que les Pussy Riot. La première avait consisté à se coudre les lèvres, littéralement avec un fil de fer. Et la deuxième, à se clouer les testicules devant le Kremlin. Donc on était sur des actes, effectivement, où il attentait à son corps de manière assez violente. Et c'est vrai que même si, effectivement, école viennoise, il y avait une forme, en tout cas, d'empathie peut-être potentielle face à un artiste qui dénonçait le Kremlin, qui à ce moment-là était clairement, effectivement, dans une forme d'offensive face aux artistes russes radicaux. Donc, effectivement, il avait quand même une image de type un peu extrême, mais encore d'artiste. Là, c'est vrai que vient-il faire ici, le pays qui lui a offert l'asile politique, sur la mairie de Paris? Alors effectivement, il y a encore un enjeu sur le corps, c'est ce que certains ont essayé de noter, hein, parce qu'on est toujours effectivement sur des questions d'incarnation dans la chair, mais c'est pas la sienne, et on a du mal à faire une lecture qui rentre dans un quelconque discours artistique, c'est vrai.
Michel,
juste rappeler quand même qu'au moment de l'incident de la Banque de France, le régime russe l'avait soutenu. Ouais. Il avait dénoncé, regardez la France, qui se targue d'être une grande démocratie, mais un de nos ressortissants en prison pendant un an, ce qui a relancé les supputations, là, depuis quelques heures, sur le côté, est-ce que la Russie n'est pas intervenue une fois de plus dans le débat public français?
Même si la Russie avait voulu l'envoyer en hôpital psychiatrique à l'époque pour ses actions sur son territoire.
Et son soutien au moment de l'affaire de la Banque de France était quand même assez troublant.
Alors l'autre question qui se pose autour de cette affaire, et ça concerne aussi Soft Power, c'est la question de la responsabilité alors d'Internet, des réseaux sociaux, la question aussi de l'anonymat qui a été beaucoup pointé. On a eu des leaders politiques, tout un tas de responsables qui ont demandé à ce qu'on sanctionne le fait d'être anonyme sur les réseaux sociaux et qu'on sanctionne aussi les réseaux sociaux. Certains ont même dit qu'il faudrait peut-être fermer un certain nombre de réseaux sociaux. Or, très paradoxalement, d'abord c'est pas anonyme, tout ça a été fait sur des sites qui avaient des noms, avec des... D'ailleurs, la preuve, c'est que cet artiste, son nom est apparu tout de suite. Et donc, la question de l'anonymat ne se pose pas réellement dans cette affaire. D'autre part, c'est un site, c'est donc Internet, de tout ce qu'il y a de plus classique, et non pas les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux, pour une part, ont contribué à diffuser l'information. Mais ceux qui l'ont diffusé étaient aussi des comptes relativement, pour certains, au moins pour deux ou trois d'entre eux, relativement connus et pas anonymes.
Carrément connus. Enfin, je veux dire, on peut dire que la traînée de poudre est partie dans députés anciens LREM. Donc, on n'est vraiment pas sur une question de l'anonymat, en l'occurrence. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, effectivement, on est sur une affaire qui part d'Internet, enfin, qui est lié à Internet, mais dans sa diffusion, comme vous l'avez dit, on n'est pas dans un événement intrinsèquement lié au phénomène d'Internet. Et c'est à cette occasion-là qu'une partie du personnel politique réclame la fin de l'anonymat. Or, effectivement, c'est très intéressant parce que précisément dans cette affaire, il y a plein de questions morales qui se posent. Et on va en parler, notamment celle du revenge porn, mais pas celle de l'anonymat. Moi, je suis assez étonnée qu'on en parle à ce moment-là, alors qu'à bien d'autres moments de la vie politique, on a parlé des élections brésiliennes dans cette émission, on a parlé des élections américaines, on a parlé du Brexit, où là on est sur, par exemple, des milliers de bots, donc de robots, qui jouent un rôle prépondérant dans la diffusion
le cas, semble-t-il,
des informations.
Ce coup-là.
Là, c'est pas du tout le cas, et pour le coup, la question de l'anonymat ou la question de la validité des personnes derrière les comptes est une question qui peut vraiment se poser, notamment à l'aune des différentes échéances politiques qu'on va connaître dans les années qui viennent, mais c'est vraiment pas dans le cas dans cette affaire, c'est pas la question.
Alors pour finir sur ce dossier qui fait couler évidemment beaucoup d'encre, qui fait encore la une du JDD ce matin et de nombreux journaux ce week-end, la question Zoé Spes du revenge porn, justement, c'est-à-dire au fond, il faut peut-être commencer par expliquer de quoi il s'agit.
Alors de quoi s'agit-il? Le revenge porn, c'est donc un de ces phénomènes de la vie intime, de la vie sociale, de toute une foule de personnes et en général de jeunes femmes qui existent et qui, comme le harcèlement à l'école, qui se poursuit par d'autres moyens.
D'abord qui se filment ou qui filment leur partenaire.
Alors, il s'agit, le phénomène du revenge porn, c'est une vidéo utilisée contre, c'est-à-dire sans l'accord de la personne qui est filmée, une vidéo d'ordre sexuel qui est diffusé sans l'accord ou en représailles.
Mais qui à l'origine a été parfois filmé avec l'accord de la personne.
Avec l'accord de la personne, c'est le principe. En fait, je vous invite tous à lire une tribune qui a été publiée hier soir par Libération, qui émane de Ovidie, ancienne actrice pornographique qui est aujourd'hui réalisatrice, qui est une militante, qui dit en se retirant, Benjamin Griveaux envoie un mauvais message. Et elle revient, elle justement, sur ce principe du revenge porn. Elle rappelle ce que c'est effectivement. C'est donc diffusion sur Internet de photos sexuellement explicites d'une personne sans son accord, et elle rappelle ce que, pour le coup, tout le monde, y compris dans les adversaires politiques de Benjamin Griveaux, a rappelé. C'est une pratique illégale en France, punie de 2 ans de prison et de 60 000 euros d'amende. Effectivement, tous les gens qui ont relayé le lien vers le site de porno politique sont potentiellement incriminables de ce point de vue-là. Et elle rappelle, Ovidie, qu'effectivement, Benjamin Griveaux n'a pas le profil classique de la victime. En général, la victime, dit-il, c'est plutôt une femme, voire une jeune fille, une travailleuse du sexe ou une personne LGBTQI. En l'occurrence, elle intervient beaucoup, et on le sait, c'est des pratiques qui sont extrêmement violentes et qui ont beaucoup lieu en milieu scolaire.
Beaucoup dans les écoles.
Beaucoup dans les écoles.
Notamment au collège, principalement.
La plupart du temps, écrit Ovidie, ce sont ces jeunes filles qui sont contraintes de quitter l'établissement après avoir entendu de la part de la communauté éducative qu'il fallait, je cite, réfléchir avant d'envoyer ça. Et elle explique, Ovidie, qu'elle considère qu'on prend le problème à l'envers. Et donc, d'une certaine manière, elle regrette que Benjamin Griveaux, qui est dans une position plutôt de force, bien qu'il ait été très affaibli par cette histoire, décide de se retirer de la campagne et non pas de dire, elle explique qu'elle aurait adoré rédiger son discours de vendredi, je vous le confirme, il s'agit bien de mon sexe, je n'ai rien fait d'illégal, en revanche je compte bien poursuivre ceux qui ont fait circuler ces photos parce que la loi m'y encourage et parce que la honte doit changer de camp, solidarité avec toutes les victimes du revenge porn, évidemment on le sait, ce n'est pas ce que Benjamin Griveaux a choisi de faire.
Michel Guérin.
Oui, je comprends bien ce que veut dire Ovidie, si Griveaux se retire, c'est pour des raisons familiales.
Exactement, ça c'est la vraie question.
Et il a dit 4 fois, je crois, lors de son intervention. C'est pour ça. Ensuite, vous avez raison, je pense que c'est pas une question de réseaux sociaux, c'est une question sociétale. C'est une question sociétale. C'est vraiment une question, nous on appelait ça au journal Le Monde, une forme d'américanisation de la vie politique, avec plein d'exemples aux États-Unis qui sont produits, ou même en Grande-Bretagne, dans des choses similaires, c'est-à-dire de vidéos à caractère pornographique. C'est quand même très très inquiétant.
Claire Baumelard.
Je pense que ce qui a joué aussi, c'est effectivement les raisons familiales, mais aussi que l'artiste activiste a annoncé en avoir d'autres. Donc il y a une forme de chantage et il n'est pas exclu que Griveaux en ait parlé à l'Élysée, qui a dit « tu te sacrifies parce qu'on ne peut pas comme ça avoir une boîte de Pandore qui s'ouvre ». peut-être aussi qu'il a été le sacrifié de l'affaire Griveaux.
Oui, sans qu'on sache si les autres vidéos,
on ne sait pas,
elles concernaient aussi Benjamin Griveaux ou d'autres personnes. Réaction, Sarah Hugonenck.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que le ministre de la Culture et de la Communication a réagi aujourd'hui en disant que la condamnation ne devait pas toucher que l'origine de la vidéo, mais aussi tous ceux qui auraient aidé à la propagation de la vidéo par des retweets, par des partages sur les réseaux sociaux. Et que là, tout d'un coup, on a une onde de choc qui se profile à l'horizon, qui voudrait dire que donc à partir du moment où on partage une information, par nature, on serait d'accord avec.
Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que peu de gens finalement l'ont partagé.
Très peu de gens
l'ont partagé, comme si d'ailleurs ce réflexe était quand même relativement bien intégré par les Français.
De la même manière, partager le lien vers le site.
Partager le lien vers le site et encore.
C'était le cas de Laurent Alexandre qui s'en est excusé d'ailleurs aujourd'hui, ou aussi du député donc LREM
qui a argué du fait qu'il voulait prévenir Benjamin Griveaux. Ouais. Après, on peut en penser ce qu'on veut,
mais pour contribuer à l'hypocrisie,
à diffuser la vidéo.
Mais pour en revenir à ça, Michel Guérin, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que effectivement, la plupart sur le fond, si critique il y a, c'est plutôt sur le thème effectivement, et on le voit, il est plutôt du même ordre que celle qu'on fait aux jeunes filles dans les lycées, c'est-à-dire c'était peut-être pas très judicieux de faire ce genre de choses quand on est porte-parole du gouvernement. C'est en ça d'ailleurs, ça, je pense que la tribune
c'est
de Ovidie,
sans doute c'est évident.
Voilà. Mais j'ai pas l'impression en tout cas, et là-dessus, je trouve qu'il y a une forme de singularité française qui persiste. Il y a pas eu vraiment de vraies critiques, en tout cas, même de la part des adversaires politiques sur le fond de l'affaire et sur le fait qu'on puisse être infidèle. Il me semble pas que ce soit le cœur du débat.
Notamment parce qu'il venait de démissionner, il l'aurait pas démissionné, il aurait peut-être eu un discours tout à fait différent. Enfin, bref. Je pense qu'on aura l'occasion sur cette antenne et sur d'autres, dans vos journaux réciproques, que ce soit Le Figaro ou Le Monde, etc., d'autres articles sur cette question dans les jours à venir. On revient sur la question des victoires de la musique et aussi des Césars, Zoé Sfez. Les victoires de la musique, c'était vendredi soir.
Et les Césars, on en parlait la semaine dernière, semaine extrêmement chargée. En fait, il est intéressant de regarder comment ces deux institutions donc, qui remettent des prix dans les deux registres que sont le cinéma et la musique en France traversent chacun une crise assez importante. À deux égards. Donc, pour revenir sur les Césars, on avait effectivement parlé la semaine dernière des propositions d'Alain Terzian, qui dirige les Césars, donc producteur depuis 2003, ça fait donc 17 ans, pour tenter d'amender un système jugé opaque. Entre-temps, en début de semaine dernière, une tribune émanant de 400 des membres de l'Académie des Césars. Je rappelle que cette Académie rassemble 4200 membres à jour de leur cotisation. 400 membres de l'Académie dénonçaient justement toujours cette gouvernance opaque. Et jeudi matin, dans un communiqué relativement sibyllin, il faut le dire, la direction des Césars a remis sa démission massive à l'unanimité. Donc communiqué qui explique: pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité, pour faire que la fête du cinéma reste une fête, le conseil d'administration de l'association pour la promotion du cinéma a pris la décision à l'unanimité de démissionner. Alors ce communiqué est étonnant à plusieurs titres. D'une part parce qu'il ne mentionne pas Alain Terzian, il n'est pas fait mention de ce qu'il va advenir d'Alain Terzian. Or, une grande partie des critiques portaient essentiellement sur son rôle. Cette fameuse direction, elle était composée de 45 professionnels du cinéma qui sont cooptés à vie par leur père ou qui sont récipiendaires d'un Oscar. Et il est dirigé par un conseil de 21 membres, très largement masculin. Effectivement, ce qu'on savait depuis assez longtemps, c'est que la désuétude de cette direction, qui n'est pas donc élue par les membres de l'Académie des Césars, faisait toujours l'objet de critiques. L'absentéisme aussi d'une grande partie de ses membres était, disons, critiqué en interne par la profession. Alors, que va-t-il se passer? On est à moins de deux semaines de la cérémonie. Dominique Thomas, le directeur du CNC, doit superviser, je cite, la profonde réforme des statuts et la gouvernance de l'Académie. On avait parlé de tout cela. Il est question de faire entrer 700 à 800 femmes dans l'Académie des Césars et notamment de changer les conditions d'entrée pour devenir membre. Toute une série de revendications, notamment celles portées par le producteur Saïd Ben Saïd, c'est-à-dire tout simplement l'élection des administrateurs de l'Académie des Césars par les membres de l'Académie des Césars. La question d'Alain Terzian, elle, reste absolument entière. On va voir aussi comment la cérémonie prend en charge, en termes de blague ou pas, cette question-là. Et puis, même problématique de nature différente du côté des Victoires de la Musique. C'était vendredi, donc la 35e édition de ces Victoires, avec un gros changement puisqu'on est passé de 13 catégories à 8 catégories. toutes les étiquettes de genre rock, électro, musique du monde, mais aussi musique urbaine, qui était un terme qui agaçait certains, eh bien, ont disparu au profit de catégories, disons, globales, albums de chansons, albums. Le tout était d'avoir une meilleure visibilité, essayer de défendre Romain Vivien, qui est le président des Victoires de la Musique. On voulait éviter de catégoriser les artistes, dit-il. Le public ne s'y retrouvait pas, et puis c'était une demande des artistes qui nous disaient « on veut concourir avec tout le monde ». Théoriquement, donc, l'idée part d'une plutôt bonne volonté, celle d'évoluer, d'en finir avec les précarés, avec les étiquettes, et donc ne demeure que les catégories reines. L'idée aussi, c'était que toutes les nominées puissent chanter, alors qu'auparavant, du coup, au regard du nombre de catégories, il n'y avait que les gagnants qui chantaient. Sauf que la profession, déjà à l'époque, au moment des nominations, c'était d'une certaine manière insurgée. C'est très dommage, dans un monde qui s'ouvre, de se refermer, expliquait un DJ historique des musiques du monde. On a eu Manu Dibango, le chanteur, qui a publié lui aussi une tribune dans Le Monde. Quand on regarde la liste des nommés, on cherche en vain une diversité de couleurs. Ça participe d'une invisibilisation systématique du rap, expliquait Héloïse Bouton, la journaliste et fondatrice de Madame Rap. Et effectivement, c'est assez sidérant de voir qu'en réalité, le rap, qui est aujourd'hui l'une des musiques qui vend le plus en France, on parle du rap que de la nouvelle variété, n'a été nommé qu'une fois et n'a été récupéré qu'une seule fois, vendredi soir. C'était le groupe PNL qui a été primé pour son clip ODD. On en est à 137 millions de vues sur YouTube pour ce clip tourné sur la Tour Eiffel dont on a beaucoup parlé. Évidemment, les deux frères n'étaient pas présents pour recevoir leur prix. Une absence qui met en valeur d'une certaine manière la façon dont, semble-t-il, les victoires ignorent le rap et les rappeurs ignorent les victoires. Et dans les catégories reines, c'est Philippe Catherine qui remporte le titre de l'artiste masculin de l'année. Il a lui-même plaisanté en prenant la fin de la distinction de genre, en essayant de faire voir d'autres catégories. Même Franck Riester, ministre de la Culture, qui était présent, s'est fendu d'un petit commentaire pour expliquer que ces évolutions étaient relativement malheureuses. Il dit néanmoins faire confiance à l'Académie des Victoires pour se réformer à nouveau toute seule. Alors, en conclusion, on peut essayer de se demander ce que nous disent ces deux crises. On a eu la crise de la critique. Est-ce que la critique est toujours légitime? Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la crise des pairs, puisque dans les deux cas, ce sont les pairs qui jugent leurs pairs. Alors, il semblerait qu'à l'heure d'Internet, peut-être la question même, l'idée même de distinguer des œuvres qui étaient initialement destinées, en fait, à augmenter la visibilité de certains artistes semble agacée. On ne sait plus bien si ce sont les cérémonies qui sont censées apporter de la visibilité ou si elles essayent de suivre la visibilité objective pour, d'une certaine manière, légitimer leur existence propre. Elle met aussi en valeur les dissensions au sein de ces professions, avec la fameuse question « Ok, boomer ». On le sait, on l'avait dit, l'Académie des Césars est composée à moitié par des gens qui ont plus de 70 ans. Du côté des Victoires de la Musique, on est sur une cérémonie qui doit être un moment télévisuel. Là encore, c'est la vraie question. Elle s'adresse à des spectateurs qui ont, en moyenne, eux aussi, plus de 60 ans. C'est intéressant de regarder quel âge on se désormais. Ces deux cérémonies, les Victoires de la Musique, ça date de 85, ça a donc 35 ans. Les Césars de 67, ça a donc 45 ans. Deux institutions en pleine crise de la quarantaine, c'est relativement jeune. Est-ce que ça veut dire que dans 5 ans, elles seront toujours là? On se pose la question. C'est suffisamment jeune, en tout cas, pour avoir l'énergie, on peut l'espérer, de se réformer.
Une réaction, Michel Guérin, à la fois sur les Césars et les Victoires de la Musique.
Est-ce que ça veut dire, je pense qu'il y a les deux problèmes, c'est que, je pense, ces manifestations d'auto-célébration d'une profession où on fait croire qu'une profession est unie, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que la société est hyper fracturée, elle est hyper fracturée au niveau des publics, donc de ceux qui assistent. Et je pense par exemple que tous les jeunes qui aiment les blockbusters au cinéma, je suis pas sûr qu'ils adorent les Césars. Et de la même façon, c'est aussi une fracturation de ceux qui créent, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une fracturation au niveau des genres, au niveau des âges, enfin, etc., et que les gens sont de moins en moins, comment dire, ils ont moins ou moins d'appétence à se retrouver, à faire croire qu'on est unis et amis, quoi.
Et
voilà,
l'histoire et de tous soirée, défendre le même artiste au fond, voilà, chaque année.
Et,
ouais.
Et d'ailleurs, la cérémonie des Césars de l'an dernier a été la plus mauvaise de son histoire. Je rappelle que les Oscars, qui ont eu lieu il y a peu de temps, ce fut la pire audience de toute leur histoire. Donc, on peut s'interroger sur vraiment ces manifestations. Est-ce que c'est vraiment opportun?
Bien.
Et elles ne font pas recette, c'est ça qu'il faut bien souligner, c'est qu'elles ne font plus recette à la télévision. Donc à la fois en interne, elles sont un peu critiquées, et lorsqu'elles vont chercher du public, Elles n'atteignent pas leur but.
Néanmoins, on peut quand même dire qu'elles ont encore, c'est pas le cas pour les Victoires de la Musique, mais c'est le cas pour les Césars et pour les Oscars dans une certaine mesure, c'est pas tout le temps vrai, mais elles ont encore un effet tout simplement sur les publics pour les films. On sait qu'encore aujourd'hui, c'est là où ça reste quand même assez intéressant, quand Parasite remporte 3 Oscars, il est à nouveau dans les cinémas aux États-Unis et en France, même si en l'occurrence, il n'en avait pas vraiment besoin. Et c'est le cas notamment aux Césars, où certains films, certaines nominations peuvent complètement relancer la carrière d'un film. Donc c'est aussi dans cette mesure-là qu'il est difficile encore aujourd'hui de savoir si elles ont du succès ou si elles sont complètement terminées, parce qu'elles ont encore, même à minima, une forme de fonction, même commerciale.
Vous êtes d'accord avec ça, Michel?
Oui, bien sûr. Non, il y a une vraie utilité. Déjà, moi, je pense que toute manifestation qui incite les gens à aller voir, aller au cinéma, écouter de la musique, voir acheter des...
Tout simplement parler et débattre.
Bien sûr, c'est très très bien. Maintenant, il faut se poser des questions, quoi.
Eh bien, on se les est posés, on a en tout cas essayé de poser des questions à défaut d'avoir des réponses. Pour terminer dans l'actualité, un petit coup de gueule, Zoé Sfez.
Un petit coup de gueule commun,
qui concerne
nous le partageons tous les deux.
Tous ceux qui vivent en Île-de-France, mais au fond, ça devrait aussi concerner ceux qui prenaient le TER ou des lignes de bus qui ont été en grève au mois de décembre et en janvier, à savoir le remboursement des passes Navigo.
Oui, alors vous le saviez, elle l'avait annoncé, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Elle a annoncé triomphalement qu'à partir du vendredi 31 janvier, on pouvait tous les titulaires d'un pass Navigo qu'ils avaient payé pour le mois de décembre pouvaient déposer une demande de remboursement d'un mois d'utilisation de ce fameux pass Navigo sur une plateforme internet www.mondedommagementnavigo.org. Alors, le principe, c'était effectivement de pouvoir rembourser ce mois de décembre à tous les gens qui l'ont acheté, quelle que soit la forme, en tout cas la nature de leur contrat, avec le pass Navigo. Alors, c'est une plutôt belle nouvelle pour les usagers de la RATP, mais elle pose une question de fond. En juin 2018, on en avait parlé ici dans Soft Power, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le syndicat de la presse sociale avait publié une enquête sur ce qu'on appelle l'électronisme, c'est l'illettrisme numérique, on en a parlé ici beaucoup, de l'accès au numérique qui révélait des chiffres relativement connus mais qui restent importants. 15% de la population française rencontre, je cite, de réelles difficultés avec Internet. 25% n'est pas du tout à l'aise avec le numérique et l'informatique. Ce qui était intéressant, c'est qu'on se rendait compte que quasiment tous les champs de population étaient touchés, y compris les habitants de l'Île-de-France. Ils sont 19% à dire qu'ils sont face à de réelles difficultés avec Internet. Évidemment, c'est un problème qui touche en majorité les jeunes seniors, 50-64 ans, les CSP et les inactifs, dans une plus large manière. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, la manière dont la RATP a choisi de dédommager les gens pour le pass Navigo exclut de facto toute une frange de la population
française.
Rend très difficile, rend d'autant plus difficile que dès qu'il a été mis en ligne, ce site, il était fait pour gérer 50 sollicitations simultanées à la seconde. Il a buggé pendant quasiment 2 semaines. Aujourd'hui, ça se passe un petit peu mieux, mais tout a été fait pour que ce soit extrêmement compliqué. D'une manière générale, pour les gens qui remplissent leurs demandes sur tablette ou sur smartphone, s'ils ont un pass Navigo à 8 ou 9 chiffres, ce qui n'est pas le cas de tous, le système était bloqué. On apprend dans certains articles, au bout de 2 semaines, qu'il faut mettre un 0 avant son identifiant. Si on commence une demande, qu'on a un problème de connexion, il faut ensuite vider le cache de son navigateur pour pouvoir réussir à remplir cette formule. De la même manière, si vous avez un pass Navigo, Navigo découverte, la seule manière d'être remboursé, c'est une lettre chèque. Donc vous deviez télécharger un justificatif de domicile, l'entrée dans la base de données, téléchargement qui buguait lui aussi. Donc si vous aviez déjà réussi à passer toutes ces étapes, vous êtes en droit, et je crois que vous avez réussi, vous Frédéric Martel, à obtenir un mail qui vous garantit qu'on vous remboursera dans les 3 semaines. Tout ça, vous l'avez vu, moi je me suis connectée au moins 9 fois. Avant de réussir à remplir cette demande. Cette demande, on a à peine 6 semaines pour la fête, puisque le 12 mars, ce n'est plus possible.
C'est fini.
En revanche, le service client, pour être sûr que cette idée marche bien, ne sera en ligne que le 27 février. Donc, un mois après la mise en ligne de ce... Tout ça pourrait être drôle.
Oui, on aurait pu
si
tout
réalité,
simplement imaginer.
Ça n'avait pas simplement des idées. Il n'y avait pas derrière, évidemment, une volonté, probablement, de miser sur le fait qu'une partie des gens sera trop ennuyé pour le faire, une partie oubliera. D'ailleurs, on peut faire un sondage comme ça, c'est assez intéressant de voir que personne ne connaît les dates. Et surtout, elle mise probablement sur une forme de manque de compétence de toute une partie des usagers de la RATP. Ça, c'est honteux parce qu'effectivement, ça aurait pu se passer tout simplement en station, ne serait-ce qu'en station.
Oui, et puis surtout, à partir du moment où on est prélevé chaque mois, par exemple, lorsqu'on a un abonnement annuel ou lorsqu'on est étudiant, il suffisait de ne pas prélever le mois de mars ou de février et les choses auraient été beaucoup plus simples, mais évidemment, le coût sans doute aurait été beaucoup plus important pour la RATP, puisque tout le monde aurait bénéficié de ce remboursement, ce qui n'est peut-être pas tout à fait leur objectif. Bon, enfin voilà.
On vous renvoie à nos bonnes émissions sur la formation.
Voilà, et puis ça concernait les consommateurs numériques, c'est pourquoi on en parler ce soir. À suivre dans Soft Power, politique culturelle décentralisée ce soir, un peu avant les municipales, mais juste avant et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur West Side Story qui débute à Broadway à New York cette semaine. Nous y étions vendredi soir, avant même la presse d'ailleurs, qui n'a été autorisée à voir le spectacle que cette nuit, donc hier soir, et je dirais qu'il y aura un avant et un après West Side Story à Broadway en termes d'utilisation de la vidéo. La mise en scène de cette nouvelle version de la célèbre comédie musicale est signée Ivo Van Hove, le metteur en scène flamand, et elle est époustouflante. Van Hove multiplie les lectures de l'histoire avec l'action sur scène d'une part, l'action en coulisses filmée et projetée sur grand écran d'autre part, ou encore les scènes de bataille de rue filmées elles-mêmes par des acteurs caméramen qui sont sur la scène. Le résultat est formidable, la chorégraphie est signée Anne-Theresa de Kersmacher et la distribution tout aussi remarquable, Isaac Powell dans le rôle d'Anthony, blessé d'ailleurs lors des répétitions mais qui reprend déjà le rôle, et surtout Shireen Pimentel dans le rôle de Maria ou Amar Ramassar dans celui de Bernardo. Le musical se veut parfois politique avec des images du mur entre les États-Unis et le Mexique ou encore des vidéos sur les violences policières. Il évoque aussi le New Jim Crow, hein, comme on dit, à savoir l'incarcération massive des Noirs et des Hispaniques dans les prisons américaines. Le casting est presque entièrement noir d'ailleurs, ou latino. 32 acteurs jouent à Broadway pour la première fois, un record. Et on entend beaucoup plus d'espagnol d'ailleurs que dans la version originale. Le producteur du show à l'époque était le célèbre Roger Stevens, qui deviendra par la suite le premier ministre entre guillemets de la culture américaine sous la présidence Johnson. Et le producteur cette fois n'est autre que Scott Rudin, fort connu à Hollywood et à Broadway, au caractère d'ailleurs tempétueux mais bourré de talent. Cette reprise de West Side Story, qui on l'espère viendra en France dans quelques mois, réussit enfin à rendre artistique une comédie musicale qui était plutôt cantonnée dans le registre divertissement. C'est le retour au fond aux origines, à savoir le Roméo et Juliette de Shakespeare, réimaginé à l'heure de Black Lives Matter et de Me Too. La scène du viol d'ailleurs est très forte, filmée dans le drugstore en vidéo en coulisses. Évidemment, on connaît tous les titres de cette comédie musicale légendaire que l'on doit à un duo lui-même légendaire, Leonard Bernstein et Stephen Sondheim. Zoé Sfès, vous connaissez tout ça par cœur.
Absolument par cœur. Bon, mais effectivement, c'est très très excitant. Je vous envie beaucoup, Frédéric Martel, d'avoir vu cette production. On espère vraiment qu'elle viendra en France. Ce qui est intéressant, c'est que cette production, donc, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle revenait à Broadway. Ça fait 10 ans qu'elle n'était plus à Broadway. Elle revient à Broadway alors que, on l'avait appris il y a 2 ans, on en avait parlé ici, Steven Spielberg a annoncé qu'il faisait un remake de West Side Story du film.
Pour les fêtes de fin d'année.
Pour les fêtes de fin d'année en 2020. Or, c'est vrai que ce qui est fou dans cette comédie musicale, c'est l'extraordinaire, d'une certaine manière, l'extraordinaire modernité et du sujet et de la musique. C'est Bernstein, ça ne vieillit pas. Et cette question, disons, de deux populations paupérisées dans New York, dont une est hispanique, sur la question de l'immigration, mais ça n'a pas pris une ride. Et dans le contexte post-Trump, on avait vraiment envie de voir quelque chose qui réactualise le propos. Or, il semblerait que Steven Spielberg ait choisi de faire un remake très couleur de l'époque, quoi, dans les années 50, avec, on a eu quelques images du set, donc moi j'avais une forme d'inquiétude en me disant, est-ce qu'on va passer à côté de la réactualisation de ce propos très moderne? Par ailleurs, le film, lui encore, n'a vraiment pas vieilli, on est sur une très très belle réalisation de Jerome Robbins, donc effectivement, cette reprise par Ivo Van Hove, qui est quand même un des metteurs en scène les plus intéressants, et justement l'un des seuls qui arrive à faire quelque chose d'intéressant avec les vidéos, est clairement quelque chose qu'on attendait. On se rappelle déjà qu'en 62, au moment où le film est sorti, le fait de caster Natalie Wood, qui est une actrice blanche, qui était d'origine russe, avait été un vrai scandale à l'époque, parce qu'on avait d'ailleurs évincé plusieurs jeunes femmes qui jouaient le rôle titre à Broadway pour avoir une star en fait à l'affiche. Et là, je trouve que c'est important que finalement cette sublime comédie musicale, qui encore n'a pas pris une ride, soit défendue avec ses meilleures couleurs à Broadway.
Une nouvelle génération, et d'ailleurs aucune star, puisque personne n'est étaient connus, mais sans doute le deviendront-ils. Arajou a précisé encore que pour le film de Spielberg, le scénario est confié à Tony Kushner, donc auteur de Angels in America. Donc on verra
ça peut pas être très mauvais,
ce que ça va donner. On aura ça au moment des fêtes de fin d'année, je l'ai dit. Et puis rappelons aussi que déjà les critiques qui ont réussi parfois à voir la mise en scène de cette comédie musicale, comme moi, tout simplement en achetant un ticket, considèrent que c'est un peu ce qu'avait fait au fond Disney avec Le Roi Lion lorsqu'ils font venir Judith Taymor pour la mise en scène, c'est-à-dire la réalisatrice, la metteuse en scène de Bread and Puppets, c'est-à-dire du théâtre d'avant-garde le plus sophistiqué. Bien là, on a Teresa de Kersmacher, on a Yvonne Van Hove pour quelque chose qui est plutôt de l'ordre du divertissement, comme toujours à Broadway aux États-Unis, ce mélange entre la haute culture, la culture de masse, tout ça remixé, mélangé dans une commémoration et en même temps une manière de faire un revival. C'est West Side Story, c'est à Broadway pour au moins sans doute plusieurs mois. France Culture, il est 18h précisément 46.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
On parle ce soir de politique culturelle jusqu'à 19h30 dans Soft Power, politique culturelle décentralisée, politique culturelle un petit mois avant les élections municipales. Plusieurs sujets autour de ces questions, parfois assez techniques, parfois liées à la décentralisation ou à ce qu'on appelle aussi la déconcentration. On reviendra sur le régionalisme, sur les nouveaux labels, parfois avec un certain succès, parfois plus contradictoire, les nouvelles initiatives locales. On évoquera tout ce que signifie, au fond, investir dans la culture pour un maire, investissement politique, économique, culturel quand même, social, parfois touristique. Et peut-être pour commencer, Michel Guérin, journaliste au Monde, Claire Baumelard, journaliste au Figaro, Sarah Hugounenc, journaliste dans plusieurs journaux, notamment au Quotidien de l'Art. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de politique culturelle décentralisée en termes de budget par rapport notamment à la politique culturelle qu'on résume trop souvent, Michel Guérin, comme étant celle du ministère de la Culture? Or aujourd'hui, ce n'est qu'en partie le cas.
Oui, il faut, je pense, partir des chiffres. Au moins, on saura un peu où on met les pieds. L'État, en gros, donne 4 milliards strictement à la culture par le biais du ministère de la Culture, mais d'autres ministères donnent aussi de l'argent, alors que les collectivités locales, tout compris ensemble, ça tourne autour de 8 à 10 milliards. Donc déjà, on peut dire, si on va très vite, on dira que les collectivités locales mettent plus d'argent que l'État, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a 36 000 communes, des grosses, des petites, etc. Enfin bon, elles donnent beaucoup plus, elles donnent en gros, c'est un rapport de 1 à 2, à 1 à 3. Qui donne beaucoup d'argent à la culture dans les collectivités locales? C'est d'abord les villes, essentiellement les villes, c'est quand même à 80% les villes.
Et ensuite, beaucoup plus que les départements, et même que les régions.
Alors on verra, il y a des actions d'éclat des régions sur certains établissements, etc., ou certains festivals, mais c'est surtout les villes. Mais ça, c'est là une vision pour moi un peu trompeuse, si on s'arrête à ça, c'est qu'il faut voir que l'État, dans les 4 milliards qu'il donne, en gros, ça va de manière massive à l'Île-de-France. Il faut le savoir, par les établissements qu'ils ont. Il faut savoir quand même que l'État dépense 139 euros par francilien pour la culture, alors qu'il ne donne que 15 euros par habitant pour tout le reste du pays. C'est quand même c'est complètement une folie.
Alors ça vient,
on va l'expliquer. Ouais. C'est disproportionné, c'est lié à
les grands travaux,
qui, etc., etc. Un seul exemple, c'est sur les opéras. L'Opéra National de Paris, que vous avez deux établissements principaux, Garnier et Bastille. C'est en gros 95 à 100 millions d'euros pour cet opéra. Alors que l'État, et il y a 10, 15, 17, 18, Claire à peu près, opérant en région. Et l'État leur donne 30 millions, mais 30 millions, ils doivent se répartir.
Pour tous.
Donc vous voyez un peu le décalage violent qu'il peut y avoir. Et en sachant en plus qu'il y a une offre culturelle à Paris, qui ne dépend pas de l'État, la ville de Paris dépense beaucoup d'argent, plus la région, Madame Pécresse, donne aussi beaucoup d'argent à la culture. Donc vous avez un déséquilibre violent, énorme. Ce qui va expliquer beaucoup de choses ensuite, je pense, sur les frustrations que ressentent les villes par rapport à l'État, ce qui pose des questions de savoir quel est le rôle de l'État aujourd'hui par rapport à ces villes, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est son action, etc. Donc tout ça va intervenir à partir de ce déséquilibre. Il n'y a aucun autre pays occidental bien développé, qui a ce tel déséquilibre entre...
Mais qui
Paris,
est aussi une histoire française,
qui est une histoire
celle française. Du jacobinisme, alors, celle de la décentralisation qui a toujours été difficile, celle du centralisme.
Du centralisme.
Qui n'est pas vrai en Allemagne à cause des Länder, qui n'est pas vrai aux États-Unis à cause des États. Qui
et
n'est
en
pas,
Espagne.
Ouais. Ouais. Et puis c'est difficile, on ne va pas transformer l'Opéra de Paris en supermarché,
voilà.
On
va pas ni le diviser en petits bouts
française
pour chaque ville,
chose, etc.
Et donc la Bibliothèque nationale de France.
C'est là, ouais, vous devez faire avec. Moi, je pense que le minimum déjà, c'est d'arrêter
les grands travaux parisiens.
Parisiens, je veux dire là, bon, le dernier, c'est la Philharmonie, je pense. C'était bien de la faire, mais je pense il y en aura plus. Je pense que c'est ça n'a plus de sens. Quoi. Mais c'est Jacques Lang disait, on supprime tous les lieux culturels de la ville de Paris, tous. L'offre culturelle à Paris restera la plus importante encore.
Oui, c'est ça. Rien qu'avec l'État.
Rien qu'avec l'État. C'est une
Claire Baumelard sur cette question.
Oui, c'est quand même ça a l'air désespérant comme ça quand on dit 139.
C'est pas désespérant, c'est juste un constat.
139 euros pour un francilien et 15 pour le reste de la France. Mais il y a quand même, ça s'explique en partie par l'histoire, c'est ce que vous disiez, et pas que l'histoire du jacobinisme, c'est aussi
la monarchie,
le pouvoir qui était là. Qu'est-ce qu'on dirait si l'État laissait filer le château de Fontainebleau, si le Louvre partait en ruine parce qu'on mettait pas un sou dedans? Non, je ne dis pas qu'il faut tout centrer sur Paris, je dis que ça s'explique, et ça s'explique aussi par le fait qu'il y a 32 millions de touristes qui vont à Paris chaque année. Donc l'argent mène à l'argent.
Et donc notamment beaucoup de, entre guillemets, provinciaux, ce qui d'une certaine manière peut être une forme de dédommagement.
Enfin, non mais si on veut... oui, ça circule quand même. C'est l'Opéra de Paris n'est pas fréquenté que par les Parisiens. Bon, donc c'est peut-être un peu moins désespérant qu'on peut le croire.
Sarah Hugonenk.
Oui, moi je voudrais apporter un tout petit peu de nuance là-dessus. Effectivement, comme tu viens de l'expliquer très bien, Claire, on explique pourquoi Paris concentre la totalité des budgets, une grande partie des budgets, mais on voit quand même depuis les grandes lois de 82 de décentralisation, on a quand même un effort croissant pour essayer de décentraliser aussi les budgets, et on le voit dans le budget du ministère de la Culture, dont une partie des crédits dits déconcentrés, donc qui vont directement aux actions dans les territoires sont de plus en plus grands. Je pense au Louvre, par exemple, qui en 2020 perd directement 11 millions d'euros sur sa dotation, qui sont redistribués dans les territoires pour un certain nombre de musées, le musée de Chambéry, par exemple, qui est en rénovation. Donc on voit petit à petit un certain nombre de choses qui essayent de se rééquilibrer. Mais c'est vrai qu'on regarde dans les faits, on pense aux grands établissements parisiens qui vont en région, que ça soit le Louvre qui va à Lens, que ça soit Pompidou qui va à Metz, à chaque fois, alors qu'on est sur des établissements nationaux, qui payent la facture de l'arrivée de ces établissements? Ce sont les collectivités territoriales. Un seul chiffre là-dessus, Lens, le budget de fonctionnement est à 15 millions d'euros et il est financé à 80% par la région, 10% par l'agglo et 10% par le département.
On recevra dans quelques semaines la directrice justement du Louvre à Lens. Au cours de cette émission, on va essayer d'aller aussi sur le terrain, discuter avec plusieurs acteurs ou tout simplement observateurs de ce qui se passe dans quelques villes. On peut pas aller partout. Je vous propose de commencer avec Christophe Loubès. Il est en direct par téléphone. Il est journaliste à Un Spectacle au quotidien Sud Ouest, donc à Bordeaux. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Comment est-ce que se manifeste la politique culturelle en Gironde, hein? Quelle a été la tendance récente dans le secteur culturel à Bordeaux, tant au niveau de son financement par les collectivités que dans les projets et les institutions locales?
Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que y a un gros effort qui est porté sur l'attractivité du territoire. Ça fait, quitte à être critiqué d'ailleurs par les acteurs des artistiques en Gironde et à Bordeaux. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un virage qui a été pris au cours de la décennie de façon à avoir peut-être des événements un peu plus visibles, touristiques si on veut être méchant, utiliser des grands mots, avec le développement depuis 2 ou 3 ans de ça maintenant d'une saison culturelle sur la métropole bordelaise pour laquelle il n'y a pas un centime de plus qui est investi. C'est juste que les subventions sont réparties différemment et sont de telle sorte que les acteurs, qu'il s'agisse des artistes ou des musées ou des associations, enfin tous les programmateurs, montent des projets spécifiquement pour cette saison culturelle où on essaye de faire un peu de bruit. Alors une année, ça a été autour de la thématique du paysage. L'été dernier, c'était autour de la thématique de la liberté. C'est des mots des mots fourre-tout sur lesquels on peut coller un peu n'importe quel type de proposition artistique. Ça, forcément, ça a forcément donné lieu à des choses intéressantes, mais la critique qui est adressée à cette politique-là, c'est de faire du tape à l'œil et de pas accompagner les acteurs artistiques sur le long terme. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est que il y a eu un effort peut-être plus grand à porter depuis l'arrivée d'un nouvel élu à la culture après les dernières élections municipales à Bordeaux à des formes dites populaires. Je veux dire par là, on a systématiquement tous les étés une grosse exposition autour du street art. Il y a un effort plus grand qui est porté vers les arts numériques, vers toutes les musiques amplifiées, rock, rap, techno, etc. De façon à essayer de créer manifestement un événement plus populaire. Avant, la politique de Bordeaux était celle qui correspondrait un peu aux stéréotypes qu'on peut avoir sur la ville, c'est-à-dire ville bourgeoise, conservatrice, travaillant principalement autour de son opéra et de ses musées, là on sent une évolution. Et puis pour finir,
Christophe Loubès, comme vous êtes journaliste au quotidien oui. Sud-Ouest et notamment Arts et Spectacles, oui. Quelle place oui. justement la culture occupe dans la campagne électorale en cours pour les municipales à Bordeaux, et quels sont les enjeux selon vous culturels pour cette campagne, je dirais indépendamment même des candidats?
Alors, il faut être très clair, hein, je pense que principalement les Bordelais ne vont pas se prononcer sur des questions culturelles. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est des questions liées au transport, au logement, au sentiment de déclassement de beaucoup de Bordelais de souche qui ont plus les moyens de vivre à Bordeaux. Ça explique l'importance du mouvement des Gilets jaunes dans cette ville. La culture, je regardais par exemple le programme du candidat En Marche sur Bordeaux, il a 14 thématique, la culture apparaît en 12e place. Le seul événement réellement marquant ces derniers temps, ça a été une tentative de l'adjoint à la culture de Bordeaux de fédérer un certain nombre d'acteurs, autant dans le domaine de la danse que de la musique, de la photographie, pour qu'ils apportent leur soutien au maire qui a succédé à Alain Juppé, Nicolas Florian. Cette tribune a reçu le soutien de 50 personnalités. Il y a une contre-tribune accusant la ville de Bordeaux d'utiliser ses artistes dans une logique un peu caporaliste, si vous me passez l'expression, qui, elle, en est quasiment à 700 signatures. Donc là, il y a une espèce... On a un peu l'impression que la municipalité républicaine, enfin les républicains de Bordeaux, a un peu joué avec le feu dans cette opération-là. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on sent une politique de gros événements qui existe aussi dans le domaine du cinéma, par exemple, mais pour lequel beaucoup d'opérateurs culturels sur place se plaignent d'un manque d'accompagnement sur le long terme.
Merci infiniment Christophe Loubès. Je rappelle que vous êtes journaliste à Arts et Spectacles au quotidien Sud-Ouest et vous étiez en direct par téléphone depuis Bordeaux. Une réaction peut-être sur ce qui vient d'être dit, Michel Guérin, journaliste au Monde.
Oui, merci, parce que je trouve ce qui se passe à Bordeaux, c'est exemplaire de ce qui se passe dans beaucoup de villes. C'est-à-dire un maire qui se fiche en grande partie de ses établissements existants, parce qu'il estime que la seule chose qui compte, c'est l'événement. Créer un événement. Alain Juppé m'a dit à moi, il y a quelques années, il me faut un grand festival, quelque chose. Il voulait un festival d'art contemporain. Il a fait 2-3 ans. Ça n'a pas marché. Et donc, il a cherché autre chose. Et ce qu'il a trouvé, c'est la Cité du Vin, que je défends beaucoup, j'aime beaucoup.
Mais vous aimez beaucoup le vin, de Bordeaux notamment.
J'adore le vin, je m'occupe de Supplément Vin au journal Le Monde notamment.
Une information. Voilà. Le responsable culturel s'occupe aussi du
ville,
vin.
La ville a investi, je crois, 30 à 40 millions dans cette Cité du Vin, et qui est un des 3-4 établissements en région les plus visités de l'année, et qui est un musée sans collection.
Il y a des bateaux de croisière qui vont juste à la Cité du Vin sans même s'arrêter à Bordeaux.
Il voulait il a pris un événement.
Mais justement, c'est
il
pas
a
un événement, ça.
Comment?
C'est pas un événement.
Mais c'est une forme d'événement général. C'est-à-dire, en fait, ils ont un lieu emblématique. Je pense que beaucoup de maires en région estiment qu'ils ont sur les bras des musées, voire un opéra, des théâtres. Mais c'est bien, mais comme l'État, ils veulent un truc en plus. Ils veulent un truc qui fasse événement. Et voilà. Et là, je pense qu'ils y ont trouvé, c'est la Cité du Vin. Allez interroger les responsables de musées à Bordeaux, voir dans quelles conditions ils vivent, dans quelles conditions leurs subventions et comment ils doivent travailler. C'est pas ils sont pas très très contents.
Sauf.
Et comme plein de villes ne sont pas contentes si vous interrogez tous les musées en région, hein.
Soft Power. Ce soir, on parle de politique culturelle, notamment décentralisée. Nous sommes avec Sarah Huguenin, journaliste au quotidien de l'art parmi d'autres journaux auxquels elle collabore. Claire Baumelard, journaliste au Figaro. Michel Guérin, journaliste au Monde. Et Zoé Sfès de France Culture. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power pour suivre l'actualité des industries créatives, du numérique, des médias et de la politique culturelle. C'est chaque semaine et ce podcast est gratuit, disponible sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça, on en continue ce débat dans Soft Power alors qu'il est précisément 19h. Alors nous avons évoqué un certain nombre de questions assez générales. Rentrons peut-être avec vous, Sarah Huguenin, dans des questions un peu plus d'évolution et au fond une période de mutation en cours pour les politiques culturelles locales.
Oui, tout à fait. On voit clairement, autant il y a quelques années, quand il y avait un musée en région qui se faisait, qui se rénovait, on avait l'État qui participait à 40% et le projet se faisait un petit peu tout seul, un peu en huis clos. Là où aujourd'hui, systématiquement, on a une multiplicité d'échelons territoriaux qui viennent financer, que ce soit la région, l'agglomération, les communautés de communes et autres, qui font qu'on a un projet qui est du coup profite à un consensus politique général et qui va englober largement plus que la culture. Je pense par exemple à ce qui se passe en ce moment à Nancy, où la Villa Majorelle vient de se rouvrir ce week-end, donc grand chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, qui a tout seul a demandé 3,5 millions d'investissements depuis 3 ans, qui devrait avoir encore quelques prolongements dans les années à venir. Mais derrière cela, il y a toute une politique de rénovation globale du patrimoine de la ville, du musée Lorrain, qui va devenir musée des Ducs de Lorraine d'ici 2024-2023, qui demande un investissement de 40 millions d'euros. Et en discutant avec l'adjointe à la culture, elle dit clairement que pour elle, l'investissement, aussi important soit-il pour une petite ville, hein, on est sur l'ordre de 110 000 habitants, donc c'est quand même un investissement très conséquent, c'est surtout pas tellement pour du tourisme, même si Nancy est très proche de la porte ouverte sur l'Europe avec le Luxembourg, avec la Belgique, avec l'Allemagne qui sont vraiment voisins. On est surtout sur une problématique de revivifier un territoire et d'attirer les entreprises. Pour elle, la culture, c'est faire venir des entreprises, c'est installer un tissu économique qui soit dynamique. Là où il y a quelques années, on ne parlait de culture que d'un point de vue un petit peu élitiste, pas forcément du point de vue de l'économie. Et au mieux, on en parlait aussi du côté du tourisme. Aujourd'hui, le tourisme a l'air de passer dans un second niveau d'argument pour les politiques.
Claire Baumelard, Michel Guérin, sur ces mutations des politiques locales.
Sur ce que soulève Sarah, c'est très vrai dans la question du patrimoine. Le patrimoine, on se dit, c'est pas qu'une question touristique, mais il peut y avoir à la fois des mécènes locaux qui se penchent sur l'avenir de la restauration du patrimoine, et on peut avoir une fierté régionale. Enfin, ça dépasse effectivement tout à fait la question touristique. C'est quelque chose qui redynamise un territoire. Et il y a énormément de villes qui, notamment dans la foulée de la mission de Stéphane Bern, le grand ordonnateur du patrimoine aujourd'hui en France, redécouvrent des lieux abandonnés en pensant que les restaurer permet de faire une implication et une fierté locale. Donc, qu'importe le coût, je dirais, pourvu qu'on ait l'ivresse, mais ça va bien au-delà de j'ouvre et je fais visiter.
Comme on parle d'ivresse, retour Michel Guérin.
J'aurais pas refroidir l'atmosphère, mais le problème, c'est qu'il y a des tonnes d'initiatives locales formidables, vous en avez donné, etc. Les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que depuis 5 ans, les collectivités locales ont réduit d'un tiers leur budget culturel. Voilà la réalité. La réalité, c'est que les collectivités locales sont dans la même dynamique que l'État en ce moment. C'est-à-dire qu'on fait... Et pourquoi? Mais ils ont une bonne raison, les collectivités locales. C'est qu'on leur a dit, vous savez, les dotations de l'État. Les fameuses dotations. Sur quoi ils ont répercuté ces chutes de dotations de l'État? Sur la culture, sur ce qu'ils estiment être le supplément d'armes,
oui, secondaire, etc. Parce que c'était difficile de le faire sur le social,
voilà,
sur d'autres.
Oui, le stade de foot, ça marche.
On le protège, oui.
On le protège. Donc, ce qu'il fallait, et ce qu'ils ont fait, c'est. Alors, évidemment, on donne tant bien que mal aux institutions existantes, les musées, un théâtre, etc. Mais en revanche, on lamine, mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard, on lamine tout ce que j'appelle moi l'action culturelle de proximité. Vous avez dans toutes les villes moyennes, petites, voire grandes, un réseau associatif énorme qui est central en France. ça passe par les MJC, ça passe par des associations de quartier, des petits théâtres locaux. Moi, je viens de Nice, il y en a 3 ou 4, je les connais, etc. Mais il y en a partout dans toutes les villes. Et là, ils ont réduit. Voilà. Donc, on arrive à des chiffres assez terribles. Et qui sont, et c'est là où je pense que l'État, l'erreur, c'est de montrer, on se plaint, c'est vrai, les budgets stagnent, etc. Mais ils montrent aussi un mauvais exemple. Et c'est un mauvais exemple qui est repris ensuite localement par toutes les collectivités locales et notamment les villes.
Bah effectivement, un tout petit mot et ça rejoint ce que vous disiez Michel, c'est-à-dire effectivement cette propension aussi des élus locaux à se conduire effectivement un petit peu comme le président de la République peut le faire quand il décide d'un grand projet culturel, c'est-à-dire à ne jamais se contenter d'un champ existant si riche soit-il et d'avoir de marquer le territoire, le mandat avec un grand projet en dépit, même s'il va pas tellement en dépit du bon sens. Et j'aimerais quand même qu'on s'attarde 2 secondes parce que vous l'avez dit effectivement, la chute des dotations, l'État montre le mauvais exemple, les collectivités territoriales le suivent et alors le pire pour les festivals, les petits musées, c'est quand tous se désengage en même temps, parce que ça vous le savez, monter un financement en région, dès que vous avez un peu l'État, vous avez une meilleure chance d'avoir la région, vous avez une meilleure chance d'avoir le département, dès qu'il y a quelqu'un qui se retire, vous avez de grandes chances de perdre tout le monde. Donc c'est assez affreux pour ces petites structures culturelles, en général c'est des petites. Je pense qu'il faut juste parler en un petit mot des plus vieux instruments de délocalisation. Les premiers, c'était les FRAC, tous les lieux où on regardait d'art contemporain, qui sont en train, alors en parce qu'ils dépendent des régions, sont en train de subir une espèce de loi darwiniste terrible, parce que comme les régions ont changé, vous le savez, c'est à qui marchera le mieux ou marchera le moins bien, il y a des luttes fratricides, il y a 2 fracs dans une même région, il faut qu'il y en ait un qui meure. Alors les fracs, c'est un bon exemple, parce que certains marchent très bien, ont trouvé leur public, n'ont pas de problème de légitimité, d'autres sont vraiment vécus, et par les élus, et par le public, et même parfois par eux-mêmes, comme vraiment cet instrument vieillot de la décentralisation à l'ancienne du gouvernement qui avait inventé cette idée que Jack Lang, et donc ils vont souffrir, c'est quand même assez intéressant, c'est les plus vieux témoins qu'on a de cette politique décentralisée qui l'est sans l'être tout à fait. Il faut vraiment qu'on essaie de comprendre en termes de discours et en termes de prise de possession par les acteurs ce que ça veut dire et à quel point ça peut perdurer.
Avec nous par téléphone, Vincent Guillon, il est directeur adjoint de l'Observatoire des politiques culturelles, qui est lui-même situé en région et qui observe ce qui se passe, notamment dans les politiques culturelles décentralisées. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Peut-être une réaction d'abord sur comment est-ce que vous voyez la mutation des politiques culturelles depuis l'Observatoire dont vous êtes le co-directeur.
La plupart, je vais pas revenir sur les chiffres qui ont été cités, mais la plupart des politiques culturelles locales sont confrontées à une double difficulté à laquelle elles cherchent à apporter des réponses. D'abord, elles doivent résoudre un premier problème qu'on pourrait qualifier de saturation. Je m'explique. Les politiques culturelles se sont développées à travers un empilement successif d'offres, d'équipements, de services, de programmes. Et aujourd'hui, les collectivités n'ont plus les capacités financières d'ajouter de nouvelles pages à leur catalogue d'offres culturelles. Elles sont donc amenées à se poser de façon plus franche la question de la transformation de l'existant, par exemple transformation des missions et du fonctionnement des équipements culturels. Second problème, de nature à la fois statistique et politique, Le développement de cette offre culturelle standard sur l'ensemble du territoire national trouve sa justification politique dans le fait d'en élargir l'accès à l'ensemble de la population. C'est ce qu'on a appelé habituellement l'objectif de démocratisation culturelle. Et des efforts importants ont été faits pour faire venir la population dans les établissements culturels. Mais inlassablement, les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français montrent que les théâtres et les musées sont toujours fréquentés par les mêmes catégories de personnes, plutôt aisées, diplômées et de plus en plus âgées. Alors, cette situation crée un malaise profond au sein des professions culturelles entre ceux qui revendiquent la protection de l'État, garant selon eux de la continuité du modèle à travers notamment ses labels nationaux, et ceux qui rejettent parfois la culture institutionnelle du ministère et sa dimension qu'ils jugent trop homogène, d'une certaine manière. Alors, à partir de là, quelles sont les nouvelles tendances des politiques culturelles qui se dégagent au niveau local? Après la période des années 2000, qui a été fortement polarisée sur des objectifs d'attractivité, de développement territorial et d'économie créative, ce sont, me semble-t-il, actuellement d'autres modèles qui émergent. Ces modèles tirent principalement leur inspiration de conceptions plus différentialistes de la société, ce qui se traduit par exemple par la promotion des droits culturels, des tiers-lieux culturels, des cultures numériques. C'est-à-dire que ces nouveaux modèles de politique culturelle se démarquent des précédents dans la mesure où l'enjeu principal n'est plus centré sur les œuvres et l'égalité de leur accès, mais sur les personnes, quelles qu'elles soient, et les capacités d'échange, d'expression, de coopération et, dans le fond, d'affirmation des préférences culturelles de ces personnes. Du coup, le rôle habituel d'expertise des professionnels, notamment sur la programmation et la conservation concernant le patrimoine, ce rôle d'expertise s'en trouve enrichi d'une fonction qu'on pourrait qualifier de facilitateur. Facilitateur dans la mise en place de procédures plus ouvertes, de délibération et de contribution des différents groupes sociaux à la vie culturelle. Avec l'idée, en creux, que le type de proposition culturelle qu'on trouve dans un lieu dépend plus du milieu dans lequel il se situe que des seuls jugements esthétiques ou scientifiques qui font autorité dans un secteur professionnel.
Alors là, on a un peu les grandes tendances de l'évolution des politiques culturelles que vous observez, notamment avec l'Observatoire des politiques culturelles. Comment est-ce que vous voyez ce débat sur la culture? Quelle place la culture occupe-t-elle dans la campagne électorale des municipales qui est en cours? Pour terminer brièvement, pardon.
De manière générale, les politiques culturelles ne constituent pas un sujet fortement débattu dans la campagne actuelle. D'ailleurs, cela vient confirmer une tendance à la marginalisation des questions culturelles dans les joutes électorales, aussi bien au niveau local que national. La culture est très peu abordée dans les programmes et elle ne semble plus faire gagner ou perdre des élections. Même si les maires veillent toujours à capitaliser les effets symboliques de leur intervention culturelle une fois au pouvoir. Mais on est très loin de la situation des élections municipales d'il y a quelques décennies où les politiques culturelles étaient un thème majeur et parfois le thème principal des programmes électoraux. Pour autant, les budgets culturels des communes et des groupements de communes n'ont cessé de croître depuis cette période. Et ils constituent souvent le premier budget ou l'un des trois premiers budgets de nombreuses villes de plus de 100 000 habitants. Du coup, la faible politisation des questions culturelles et, je dirais, le manque de controverses politiques à ce sujet lors des élections municipales pose un réel problème démocratique compte tenu de l'importance des moyens qui y sont consacrés. On reconduit un peu ou prou les mêmes équilibres de politique culturelle d'un mandat à l'autre.
Et quels que soient les élus.
On a l'impression d'une grande permanence, d'une absence de choix, voire, je dirais, d'une incapacité politique à formuler des alternatives et à en débattre publiquement. Alors, heureusement, on a quelques exceptions dans cette campagne. Par exemple, dans des villes candidates à l'obtention du label Capitale Européenne de la Culture, comme Clermont ou Rouen, ou encore à Nantes, mais pour d'autres raisons, puisque la forte attractivité de la ville, qui a été dopée par les investissements culturels, commence à poser de vrais problèmes au niveau de l'augmentation du prix du foncier et de la capacité des infrastructures urbaines comme les écoles à absorber la croissance démographique. D'où la question qui est débattue dans la campagne électorale nantaise, faut-il poursuivre ces politiques d'attractivité territoriale par la culture ou changer de style de politique culturelle?
Merci infiniment Vincent Guillon d'avoir été en direct par téléphone en direct dans cette émission. Vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire des politiques culturelles. Michel Guérin, Claire Baumelard, Sarah Huguenin, peut-être une réaction sur ce qui a été dit et puis peut-être tout simplement pour avancer un peu dans ce débat, quels sont les nouveaux modes aussi de participation et de choix citoyens? Je pense notamment à ce qu'on peut faire ici ou là pour impliquer davantage le public.
Vas-y, Claire. Claire.
Non, ça s'invite parfois dans les campagnes. Alors évidemment, dans les campagnes électorales, évidemment, on peut penser que plus de culture pour tous, ça n'est pas très clivant et tous les candidats se retrouveraient sur un thème comme ça. Mais je me souviens à Reims en 2014, quand le maire Arnaud Robinet avait annoncé qu'il décalait les travaux sur le musée des Beaux-Arts au profit d'autres travaux, ça avait quand même fait un tollé. Donc, au sens large, ça ne s'invite peut-être pas dans les campagnes au même titre que la sécurité ou l'environnement, mais sur des cas très précis, on s'aperçoit que les gens sont extrêmement attachés à au moins conserver l'existant, si ce n'est à avoir plus. D'où tout ce dont parlait monsieur, à avoir des... d'avoir comme ça des saisons qui s'imposent pour maintenir la flamme et la demande des habitants.
Michel Garin.
En général, la culture est un débat quand vous avez un énorme bâtiment qui arrive avec des dérives de budget. Le bâtiment coûte 3 fois plus cher que prévu, c'est là que ça intervient. Mais comme c'est pas vraiment l'époque à construire, etc. Non, mais ce que je retiens de ce que dit Monsieur Guillon, qui est intéressant, c'est qu'il parle de la frustration des maires face à la culture, c'est-à-dire ils ont des équipements, il faut faire avec, mais ça ne leur satisfait pas vraiment ces équipements, puisque c'est pas avec ces équipements-là qu'ils vont démocratiser la culture, disent-ils. Mais c'est la même frustration qu'a l'État quand il veut ils veulent faire le pass culture pour les jeunes. C'est pourquoi ? C'est pour essayer de casser un peu. C'est en gros, il y a des gros établissements. Vous y allez, manque de peau. Ceux qui y vont sont pas les plus pauvres, les plus malheureux, les plus exclus, etc. Donc on va créer un pass culture pour ouvrir, etc. Les villes ont exactement les mêmes problèmes que l'État par rapport à cette exigence de démocratisation.
Sarah Huguenin, on voit aussi de nouvelles formes d'investissement culturel local qui jouent un rôle à la fois politique, économique, de rayonnement, social, etc.
Oui, tout à fait. Et juste pour rebondir, je pense que tout ce qu'on dit là et ce qu'a pu dire par l'OPC à l'instant, c'est ce que disait tout à l'heure très bien Monsieur Michel Guérin, c'était le côté qu'on est dans une société du spectacle, on a besoin d'événements, et on le retrouve dans les budgets où il faut bien dissocier le budget de fonctionnement qui va permettre de faire fonctionner un établissement tous les jours d'un budget d'investissement qui va permettre de le construire, de le rénover. Et on voit à peu près partout où on a des budgets d'investissement extrêmement lourds et parfois même plus lourds que le budget de fonctionnement. J'ai relevé par exemple à Paris, on a 13% du budget de fonctionnement pour la culture alors qu'on en a 24% en investissement pour les musées. On peut avoir des écarts extrêmement forts et c'est la grande maladie française qui fait qu'on investit dans beaucoup de projets comme ça qui peuvent être très spectaculaires, qui ont un effet de communication à court terme d'un point de vue politique très porteur. Et derrière, le fonctionnement souvent se délite et on se retrouve, on pense à Pompidou-Metz qui avait à l'époque beaucoup mis les projecteurs sur la région Est. Et 2 ans plus tard, on a eu la région Lorraine qui s'est retirée d'un million, considérant que ce n'était pas à elle de faire marcher le fonctionnement.
Sur cette question, Claire Baumelard, vous avez regardé de près les Hauts-de-France justement.
Alors les Hauts-de-France, c'est un exemple qui est plutôt positif. Alors ça me faisait plaisir d'en parler parce que c'était justement parce que Xavier Bertrand, qui est donc le président des Hauts-de-France, estimait qu'il y avait Paris et le reste du monde qu'il a voulu doubler le budget régional consacré à la culture.
De 66 à 122 millions d'euros par an à peu près.
Voilà, en 3 ans, ce qui est spectaculaire. Alors évidemment, dans le Nord, c'est comme partout, la culture est parent pauvre dans les campagnes électorales. Tout le monde préfère parler sécurité, emploi, surtout emploi dans le Nord d'ailleurs. Mais au moment des régionales, il avait mis en avant le potentiel de création de richesses que portait la culture, le patrimoine, le spectacle vivant, etc. Et il savait bien, Xavier Bertrand, qu'il ne partait pas d'une feuille blanche, parce que dans le Nord, on a quand même des villes comme Beauvais, Arras, Amiens, Valenciennes, Dunkerque,
Lille,
Lens,
aussi, bien sûr,
avec le Louvre, et bien sûr Lille. Mais il a quand même réussi à attirer des gros tournages dans la région, dont Dunkerque de Xavier Dolan, qui a représenté 19 millions d'euros de retombées économiques pour la région.
Jeanne aussi, je crois.
Jeanne. Bon, je n'ai pas...
Il a attiré Cérimania, donc
il
là
a
pour le coup,
Cérimania,
le festival de séries télé.
Ça, c'est une très belle prise. 12 000
festivaliers l'année dernière.
Au détriment de Cannes ou d'autres villes qui étaient
de Paris,
plus désignées et de Paris.
Ouais.
De Paris.
Et puis Louvre-Lens qui fonctionne. Ouais.
Oui, 500 000 visiteurs.
Par an, c'est
500 000 par an.
Ouais. C'est énorme. Alors, la région accompagne aussi la restauration du patrimoine minier, aide les librairies indépendantes, donne de l'argent à certaines compagnies de théâtre qui voudraient se rendre à Avignon et a voté 1 million d'euros pour Notre-Dame de Paris. Surtout, elle s'occupe également de ce qu'elle appelle les zones blanches, parce que c'est vrai qu'il y a ces villes de taille moyenne qui ont toutes des musées des beaux-arts, qui ont toutes du patrimoine intéressant. Et puis, il y a ces régions qui ont été abandonnées, pas seulement de l'industrie, pas seulement des entreprises. Donc là, il y a tout un système de structures mobiles et de microfolie dont vous avez parlé la semaine dernière. Donc, c'est pas très facile d'évaluer avec finesse les retombées et les succès de cette politique.
Un peu tôt encore, peut-être, non?
Mais ce qu'il faut remarquer, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est que ça a été fait en bonne intelligence avec les communes, c'est-à-dire que la région, par exemple, refuse de compenser les baisses de subventions des villes et elle ne participe à un projet que s'il s'inscrit dans une dynamique. Donc, elle dit « je ne complète pas ». On fait les choses ensemble.
Ça, ça donne de la légitimité.
C'est ce que Sarah disait tout à l'heure.
Michel Guérin.
Ce sont des multi.
Oui. Il y a un débat qui ne va pas venir sur les municipales et qui me paraît central, mais ce n'est pas possible qu'il intervienne parce que c'est un sujet tabou. C'est le fait que de plus en plus de maires interviennent sur la politique culturelle esthétique des lieux. Il y a eu, vous savez, un grand débat après les Gilets jaunes, là, enfin un débat, si on peut dire, à l'École des Beaux-Arts, c'est un grand débat culturel. Et Charles Berling est venu, il dirige un... Alors il est connu lui, il peut parler. Parce que la plupart des représentants de musées, de théâtres en région n'osent pas parler. Ils n'osent pas, ou alors ils parlent en privé. Parce qu'ils ont peur, ils savent très bien que s'ils disent ce qu'ils pensent, ils vont vraiment en prendre plein la tête. Charles Berling est venu, il a dit, le grand problème qui va des années futures pour nous, qui dirigeons des lieux culturels en région, c'est l'interventionnisme incroyable des maires.
Avec un côté régionaliste aussi souvent, défendre les cultures locales.
Ouais, mais ça, je pense que c'est, vous croyez vraiment à ce risque-là? Moi, j'y crois pas tellement.
C'est sur les nominations.
Là, c'est celui
c'est en disant ouais, mais
c'est pas
celui
qui décide.
C'est pas assez grand spectacle, c'est pas assez ci, c'est pas assez là, etc., etc. Et c'est quand même assez inquiétant. Ça arrive aussi à la ville de Paris. C'est le point. C'est que les gens, les élus locaux, je parle. Le patron de l'Opéra de Paris, on ne va pas lui dire qu'est-ce qu'il faut monter comme opéra. Jamais
mais
Macron va l'appeler.
Ils la
vont
culture,
s'emmerder pour savoir s'il faut nommer telle et telle personne à la tête de l'Opéra de Paris, mais après, les grands établissements, ils font ce qu'ils veulent.
Donc vous dites, vous
serait parfois
c'est,
inspiré,
c'est pas la même chose qui se passe.
Ah non, que ça soit ensuite dans les très grandes villes ou les petites villes moyennes, il y a, je ne sais pas pourquoi, il faut que les élus pensent que c'est un élément pour leur politique, leur réélection. Ils ont un avis, ils vont dire quelle est l'affiche qu'il faut mettre pour telle exposition. Enfin, ils interviennent sur tout et n'importe quoi. C'est incroyable. De plus en plus, ce qui n'était pas le cas. Mais ça, c'est aussi le fait que c'est devenu un enjeu pour eux. La culture, avant, on disait que c'était la femme du préfet ou la femme du maire qui s'en occupait ou le mari de.
Maintenant, c'est le maire.
Maintenant, c'est
on dit que c'est. C'est-à-dire que le maire a les yeux quand même sur le taux de remplissage d'un certain nombre de théâtres ou de salles. Donc,
c'est pourquoi le ministre de la Culture ne regarde pas le taux de remplissage des théâtres.
C'est un problème. Il devrait le faire.
Non, parce que le remplissage n'est pas le seul élément, cher Claire,
sur lequel on
doit juger
une
politique culturelle.
On est presque à terme de cette émission. Je vous laisse réfléchir chacun à une idée que vous pourrez développer dans un instant. Entre-temps, Aurélien Martinez est avec nous par téléphone. Bonsoir, monsieur. Vous êtes à Grenoble et vous êtes ancien rédacteur en chef du Petit Bulletin de Grenoble. Alors, dans un article que vous publiez dans la Lettre du Musicien, le 4 février, vous revenez sur le bilan de la politique culturelle dans la ville de Grenoble. Vous dites en particulier que la tendance du maire écologiste a été de réduire le soutien aux grandes institutions au bénéfice de formes d'art jugé plus engagées socialement. Comment ça se manifeste concrètement?
Oui, c'est le chapeau de l'article, en effet. Alors, juste pour contextualiser un petit peu, rapidement, en 2014, c'est le dauphin du maire socialiste qui devait gagner. C'était les sondages, tout le monde disait que c'était ça, c'était prévu. Sauf que la politique, c'est imprévisible. Et en fait, c'est la liste écolo et parti de gauche qui a gagné, seule, sans fusion. Et donc, est arrivée au pouvoir une équipe complètement nouvelle et qui, objectivement, n'avait pas fait du volet culturel son domaine de prédilection. Je pense que le maire Éric Piolle serait presque d'accord avec moi là-dessus. Mais il a quand même fallu s'y mettre. Et là, oui, pour répondre à votre question, il y a eu d'emblée des décisions budgétaires fortes, notamment de baisse de subventions pour des gros acteurs culturels. Je pense notamment aux musiciens du Louvre, qui est un orchestre d'importance nationale, voire internationale, qui est basé à Grenoble, ou la MC2, la plus grande scène nationale culturelle de France.
La culture est basée à Grenoble, oui.
Voilà, qui ont vu du coup leur subvention municipale baisser. Et ça, c'est lié à des contraintes budgétaires, il y a la baisse des dotations de l'État, mais il y a aussi et surtout une vision idéologique assumée par Éric Piolle. En gros, pour lui, on peut plus faire comme on faisait avant dans les années Malraux-Langue. Il faut inventer une autre politique culturelle.
Alors, au-delà même de lui et de son bilan, puisqu'il est candidat à sa réélection, face à d'autres candidats, je pense à Olivier Noblecourt par exemple, ou à d'autres, quels sont les enjeux culturels dans la perspective de ces municipales, précisément à Grenoble, indépendamment même des candidats?
L'enjeu est très fort, l'enjeu c'est de réparer, parce qu'en gros, ces 6 ans ont été très très violents entre une grosse partie du milieu culturel grenoblois et l'équipe d'Éric Piolle. Et je cite dans l'article une metteuse en scène assez connue à Grenoble qui s'appelle Émilie Leroux, qui juge que les artistes ont été jugés comme une caste à part qui ne participait pas à la vie des Grenoblois. Et d'ailleurs, la plupart des candidats contre Éric Piolle se sont emparés de ce sujet. Il y en a même une qui me dit dans l'article, clairement, c'est le domaine où il s'est le plus planté. L'équipe Piolle, d'ailleurs, l'a bien compris. Ils ont essayé de rattraper les choses les dernières années, notamment en nommant une conseillère auprès du maire sur ces questions, pour essayer de réparer, d'être plus à l'écoute, d'éviter en fait que tout le monde s'embrouille sur ces questions. Et ce sera vraiment un des enjeux très forts à Grenoble, et d'ailleurs ça change, contrairement à ce que disaient les autres intervenants. Le premier débat entre tous les candidats grenoblois s'est fait fin janvier, et ils parlaient de la culture, ce qui est assez audacieux pour un sujet qui normalement n'intéresse pas grand monde.
Merci infiniment Aurélien Martinez, pardon d'être un peu bref, mais nous sommes presque au terme de cette émission. Ville, en tout cas Grenoble, qui a toute une histoire, Michel Desto, mais bien avant Dubedou, toute une histoire de décentralisation très importante en matière de théâtre notamment, ou d'autres secteurs. On termine cette émission peut-être avec une remarque de chacun d'entre vous, très brièvement, sur peut-être une initiative locale que vous aimeriez défendre ou mettre en avant. Je commence par vous, Sarah Hugonenc.
Oui, moi j'aimerais parler du développement du mécénat territorial, qui est un phénomène extrêmement récent, ne serait-ce que parce que le législateur s'en est emparé récemment, avec en 2015 la possibilité par les collectivités de pouvoir faire appel au financement participatif, donc qui n'est pas sans poser des problèmes, puisque on est face à des collectivités qui sont censées être pourvoyeurs de fonds et qui finalement font appel à la générosité du public ou des entreprises pour payer leurs prérogatives.
Claire Bonnemalheur.
J'ai envie de suggérer à ceux qui nous écoutent d'aller sur la plateforme mec.org ou de se rendre à l'Arsenal de Paris où est présenté un projet assez controversé
sur les
Champs-Élysées. C'est un projet qui est un livre blanc, hein. C'est fait pour être pensé et réfléchi. En résumé, c'est une large piétonnisation de l'espace qui court de la Concorde jusqu'à la place de l'Étoile. Moi, je dis, allez voir et donnez votre avis.
C'est make.org. Et c'est bien sûr en province, comme chacun le sait. C'était une initiative décentralisée.
Michel Guérin. Les appartiennent à tout le monde.
C'est vrai.
Moi, j'aimerais faire un appel au maire, c'est leur dire quel est le tout premier contact des jeunes avec la culture, la première fois où ils vont voir un spectacle, une show, un concert. C'est souvent une association locale ou une MJC, par exemple. Les maisons des jeunes et de la culture ont été réduites de moitié en 20 ans. Souvent parce qu'on estime que c'est trop gauchiste, trop ci, trop là, perte d'argent, etc. Peut-être. Peut-être qu'il y a des abus, des erreurs. Mais qu'elle fasse attention. On parle de démocratisation culturelle. Souvent, c'est ces lieux modestes dont on parle peu. Et c'est super important de les défendre.
Zoé Sfez.
Un dernier mot, effectivement, ce qui est très frappant dans cette émission, on l'a dit, il y a trois constats qui entrent en contradiction. Un, les budgets culturels sont très importants, plus importants qu'il y a 30 ans quand on en parlait plus. Deux, c'est pas un sujet de débat de campagne. Trois, alors que les élus, la politique plus que jamais. Il y a quand même un truc qui va pas, en fait, dans ces trois constats qui vont ensemble. On a parlé ici beaucoup cette semaine sur France Culture des exemples qui marchent, des exemples qui marchent pas. On peut parler d'Arles. On y va tous cette année. Quand c'est bien fait, quand c'est fait avec envie et quand il y a de l'émulation, ça fonctionne.
Alors on aurait pu évoquer aussi la question de l'investissement privé, les grands projets en région qui sont moins nombreux mais qui existent avec des succès comme la scène musicale sur l'île Seguin, on reste en Île-de-France, ou le musée de la mer à Biarritz qui a lui plus de difficultés. On aurait pu parler des résidences artistiques. Les résidences artistiques se multiplient parfois au service des artistes et du public, parfois avec trop de contraintes et des difficultés pour les artistes.
Mais parfois au service des communes qui n'ont pas compris que les artistes en résidence ne sont pas là pour célébrer les maires en place. Ça, c'est un vrai sujet.
Que les artistes sont libres aussi de faire leur travail. travail, il n'y a pas forcément de travailler uniquement pour la ville. Les labels aussi sont très nombreux, discutables parfois, une multiplication de labels, on a parlé des FRAC, on aurait pu évoquer les centres culturels de rencontre, les scènes de musique actuelles, les centres nationaux des arts de la rue, de l'espace public, les centres nationaux de la création musicale, etc. Les risques du régionalisme aussi. Bref, tout un tas de questions, on ne peut pas tout traiter ce soir, mais on a essayé de faire un premier tour d'horizon autour de ces questions de politique culturelle décentralisée. Merci à Sarah Gounenc, journaliste notamment au quotidien de l'art, Claire Baumelard du Figaro, Michel Guérin, journaliste au Monde. Merci à tous les trois d'être venus ce soir.
Merci à vous.
Merci Zoé Sfez. Pour aller plus loin, les références, articles, livres dont on a parlé durant cette émission, les musiques qu'on a diffusées, bien d'autres informations sont à retrouver sur le site de France Culture, émission Soft Power. La semaine prochaine, on parlera notamment de la pensée de Bruno Latour dans cette émission. Et puis dans un instant, Carbone 14, magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que demain, les matins de France Culture, recevront l'historien Nicolas Rousselier. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.